Voilà, je vous invite tout de suite, on est plus nombreux. On n'est pas très nombreux. Voilà, alors apprendre à écouter, c'est la deuxième prédication, puisqu'on avait déjà vu la fois passée, dimanche passé. Donc, écouter la voix de Dieu. Alors, écouter la voix de Dieu. Si nous sommes des brebis du Seigneur, évidemment, le Seigneur désire qu'on puisse entendre sa voix. Les brebis entendent la voix du bon maître, c'est ce qu'il désire. Alors, on avait vu quoi la fois passée? On pouvait entendre trois voix différentes, même quatre, la voix des autres, notre voix personnelle, la voix de l'ennemi et la voix de Dieu. Il faut faire la distinction pour discerner. Il y avait l'histoire de l'Indien avec son compagnon là à New York. Et l'Indien avait entendu le bruit d'un criquet. L'autre lui dit comment est-ce que tu as entendu le criquet, etc. Vous avez entendu ça. Et il faisait la distinction parce qu'il était habitué d'entendre le bruit. Même dans la multitude des bruits, il savait reconnaître. Et nous devons être capables de reconnaître la voix de Dieu alors qu'il y a beaucoup d'autres voix. La parole de Dieu nous parle de faux prophètes, il nous parle de toutes sortes de choses. Donc nous devons faire la distinction entre notre manière de penser et la manière de penser de Dieu. La parole de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, mes voix ne sont pas vos voix. Donc on peut facilement se tromper. Et c'est pour ça que nous devons être habilités par le Seigneur, reconnaître sa voix. Apprendre à écouter Dieu. Jésus veut s'occuper de nos oreilles. Quelquefois, nous n'entendons pas parce que nos oreilles sont soit trop occupées avec autre chose, soit sont malades, on va dire comme ça, ont un problème. Lorsque Jésus était sur cette terre, il a croisé le chemin des malentendants. Il sait ce que c'est, des malentendants. C'est pas toujours facile. Ça n'a rien à voir avec la famille de Jean-Philippe, comme on est peu. je n'ai même pas pensé à. Je sais qu'il a un problème au niveau auditif, mais c'est pas de cet entendement-là dont il est plus question. Spirituellement, être malentendant au niveau spirituel, c'est avoir difficile d'entendre la voix de Dieu. C'est très différent de l'oreille physique. Je parle plus aujourd'hui de l'oreille spirituelle. Marc 7, versets 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Alors, que fit Jésus pour les oreilles de cet homme? Il mit ses doigts dans ses oreilles et il va le guérir. Non seulement cela, mais il va aussi toucher avec sa salive la langue de cette personne. Parce que les deux étaient liés, sourds et muets, mutisme. Mais je veux revenir aux oreilles. Nous devrions être tous capables d'entendre Dieu avec notre esprit. C'est avec notre esprit, évidemment. C'est les oreilles spirituelles. Nous avons besoin que le Seigneur débouche nos oreilles. Je crois que c'est important. Mais il y a des conditions pour que Dieu puisse faire ce travail spirituel dans nos oreilles, et on le voit dans Ésaïe 50, verset 4. Le désir d'entendre la voix de Dieu doit être précédé du désir d'obéir. Donc, le désir d'obéir, c'est primordial si nous voulons entendre la voix de Dieu. Si nous n'avons pas envie d'obéir à Dieu, il nous ouvrira pas les oreilles. Je pense que Dieu voit l'attitude du cœur, la motivation, le but, comment notre cœur se trouve. Dieu peut agir de manière extraordinaire si nous avons l'attitude qui lui convient. Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. » Voilà. Donc, le disciple, c'est celui qui se met à l'écoute de son maître. Se mettre à l'écoute du maître, c'est avoir à recevoir quelque chose, un enseignement, à mettre en pratique, à vivre dans sa vie. Et c'est dans ce sens-là. Si je suis capable d'entendre la voix de Dieu, c'est parce que je suis un disciple attentif à la voix de Dieu. Et le disciple sera capable de donner un conseil venant de Dieu à une nouvelle génération de disciples. Voilà. Donc, c'est ça que Dieu veut, c'est que nous puissions être à l'écoute de Dieu pour parler de la part de Dieu à des gens qui vont écouter avec un cœur attentif, afin qu'eux aussi puissent être réceptifs à Dieu et pouvoir donner à leur tour des conseils venant de Dieu. Et il y aura ainsi une nouvelle génération spirituelle, et encore une nouvelle génération spirituelle. Et c'est au travers des disciples que ça peut se produire. C'est pas des gens simplement qui viennent écouter dans les églises. C'est des personnes qui se mettent à l'écoute de Dieu tous les jours. Alors, des parents décidèrent de faire ausculter leur enfant par un ORL, craignant qu'il ait un problème de surdité. Parce que, il donnait des ordres, mais il n'y avait rien qui se passait. Peut-être a-t-il un problème de surdité. Mais le spécialiste, après avoir examiné l'enfant, leur annonça que le problème, c'était la désobéissance. Et donc, il n'avait pas un problème de surdité, mais il n'avait pas envie d'obéir. C'était pas... Et donc, c'est tellement important d'avoir le désir d'obéir. Pourquoi est-ce que Dieu nous parlerait si on n'écoute pas dans le sens? Parce que écouter, ça veut dire obéir, en fait. Hein. Écouter pour ne pas obéir, ça ne sert à rien. Voilà. Souvenons-nous de l'anecdote de l'Indien. On entend seulement ce qu'on veut entendre. On entend seulement ce qu'on veut entendre. Écouter est une chose, entendre en est une autre. Et ce n'est pas facile. Parce que des fois, on est tellement attentif à nos propres pensées que nous avons des fois difficile de nous mettre à l'écoute de Dieu. Mais ce qui va se vérifier, c'est se mettre à l'écoute des autres. Comment vérifier si je sais écouter Dieu? Eh bien, c'est en vérifiant si je suis capable d'écouter les autres et de restituer ce qu'ils me disent. Est-ce que je suis capable de résumer en quelques mots ce que quelqu'un m'a dit. Et là, c'est une manière de vérifier si je suis à l'écoute. Et si je pense à autre chose, évidemment, ça veut dire que je n'ai pas écouté. Je me suis écouté, mais je n'ai pas écouté l'autre. Et il y a des gens qui interrompent les autres avant qu'ils aient fini pour leur dire autre chose. Ils n'ont rien écouté, en fait. Rien du tout. Et des fois, dans la prière, c'est comme ça avec Dieu. On n'écoute pas ce que Dieu pourrait nous dire, et on a déjà nos idées, on déballe, mais on n'écoute rien. Et donc c'est un monologue, alors que Dieu voudrait avoir avec nous un dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il écoute. Hein, comme ma mère, à un moment donné, bon, elle était formidable, mais cette fois-là, c'était un peu spécial, avec sa sœur. Et elles se sont parlé, et l'une a parlé, l'autre a parlé, personne n'a écouté, puis ils ont claqué le téléphone toutes les deux en même temps. Il n'y avait personne qui s'écoutait. Hein? Ça, c'est mal terminé. Mais bon, avec elle, c'était pas grave, parce que le lendemain, ils ont téléphoné, tout allait bien. Mais tout allait bien, et voilà. Alors, autre chose, c'est que nous devons être sensibles à l'endroit et au moment où Dieu veut nous parler. Si nous recherchons son intimité et des endroits privilégiés avec lui, il nous parlera. Donc, être sensible à l'endroit et au moment où Dieu veut nous parler. Des fois, Dieu veut nous parler, mais on n'est pas accessible. C'est comme si notre ligne était dérangée. Des fois, on me téléphone et mon GSM est coupé, ou je l'ai sur la voiture, ou il est dans la poche de mon manteau que j'étais pendre, je ne sais pas où. Et forcément, des fois, on est injoignable. Et des fois, Dieu voudrait nous parler, mais voilà, on est injoignable. Voilà, on s'est mis en dehors du réseau, connecté avec Dieu, et voilà, ben, il veut nous parler, mais on n'est pas là. C'est dommage. Mais si nous recherchons son intimité, il faut être vraiment sensible à tout moment. Nous devons être capables d'entendre la voix de Dieu. Même dans une foule, même dans nos activités, quelquefois nous sommes tellement pris par nos activités. Soyons honnêtes, réalisons que c'est pas toujours facile. Quand on est vraiment centré sur quelque chose, on a difficile de se décentrer pour se centrer sur la personne la plus importante qui soit, le Seigneur lui-même. Pour accomplir la volonté de Dieu, si on n'est pas centré sur Jésus, on va être centré sur nos trucs, mais on est à côté de la plaque. On sera indisponible et incapable de comprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire ou quoi que ce soit. Dieu peut nous demander d'arrêter de faire ce qu'on fait pour se mettre dans la prière. Dieu peut nous montrer que le choix que nous allons faire est un mauvais choix. C'est pas ça qu'il faut faire. Quelquefois, l'utilisation du temps n'est pas la bonne. Et Dieu peut nous montrer, tiens, pas maintenant. Ce sera plus tard, il y a autre chose à faire que pour maintenant. Et si on n'est pas attentif, eh bien, on le fera. Non, j'ai décidé, je peux faire ça. Je fais ça. Et j'ai même pas entendu ce que le Seigneur voulait. Mais alors, voyez, la différence entre nous et Philippe. Philippe, qui par exemple, reçoit la parole de Dieu, va sur le chemin qui est de Damas, hein, le chemin qui est désert, et il est attentif. Et premièrement, il a entendu, et puis il va obéir. Il va faire ce que Dieu lui a demandé. S'il n'avait pas été attentif, s'il n'avait pas compris ce que Dieu voulait, parce qu'il était centré sur les miracles qu'il faisait, mais de mes mains, il y a des miracles, c'est extraordinaire. Non, il était centré sur le Seigneur. Centré sur le Seigneur, pas sur lui, sur les activités, sur les trucs qu'il faisait. C'est pas celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui fait des miracles, qui a prophétisé, qui est important devant Dieu. C'est l'attitude que nous avons. L'attitude est plus importante que tout. Alors, Moïse, on voit Moïse dans Nombre chapitre 7, verset 89, comment se comportait Moïse. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il lui parlait. Donc, Moïse parlait avec Dieu dans la tente du rendez-vous. Ça, c'est beau, ça. On appelle souvent le tabernacle, mais c'est un nom impropre. C'est plutôt mieux de parler de la tente du rendez-vous. Dieu avait rendez-vous avec son peuple au travers de ses serviteurs et de son serviteur Moïse en particulier. Et où est-ce que Moïse parlait avec Dieu? Eh bien, dans le Saint des Saints, devant l'Arche de l'Alliance. Dieu se glorifiait, Dieu se manifestait, la colonne de nuée, la colonne de feu, résidait au-dessus du tabernacle, et juste au-dessus du lieu très saint, juste au-dessus de l'Arche de l'Alliance, dans le Saint des Saints. Et entre les deux anges, hein, vous savez, il y a le coffre, où était le coffre en bois, hein, où étaient les deux tables de pierre, surmontées du propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle, donc recouvert d'or, bien sûr, et surmonté de deux anges, recouvert d'or aussi. Et c'est là, entre les deux anges, que Dieu parlait. C'est là aussi que le sang devait être amené, aussi. Une fois par an, le souverain sacrificateur devait offrir le sang, hein, des boucs, le sang qui est purifié, qui purifiait le peuple et qui devait être renouvelé à ce temps-là, année après année. Donc Jésus va venir, il va pardonner pour, définitivement le péché en une seule fois, hein, par son sacrifice. Donc Moïse entrait là et il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins et il lui parlait. Donc Dieu parlait avec Moïse, c'est un ami intime comme Abraham. Et c'est à cet endroit-là, ça nous parle du sang, hein, du pardon. Il existait un endroit où Dieu parlait avec Moïse, dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du tabernacle. Et c'est sacré d'entendre la voix de Dieu, c'est tellement sacré, c'est tellement important. On devrait trouver des endroits, mais c'est sacré. C'est pas seulement l'endroit, c'est je crois que c'est le moment où on rencontre Dieu, c'est un moment sacré, mais c'est aussi un endroit sacré, là où il y a la rencontre avec Dieu. Peu importe là où nous sommes, on peut être dans un placard, on peut être dans n'importe quelle pièce, peu importe, mais c'est sacré parce que nous sommes avec le Seigneur. C'était entre les deux chérubins. C'est le lieu d'adoration et de communion. C'est un lieu d'adoration, un lieu d'intimité avec Dieu et son enfant. Adoration, communion. C'est le lieu où le sang avait été versé. Cela parle du péché qui était couvert dans l'Ancien Testament et qui est ôté dans le Nouveau. C'est le lieu où se trouvait la preuve éternelle du péché pardonné. Hein? Au travers du Christ qu'on voit cela. C'est donc là où Moïse entendait la voix de Dieu. Pardonné, couvert du sang de Jésus, le péché n'obstrue plus le canal auditif entre Dieu et nous. Donc, s'il y a du péché dans notre vie, eh bien, nous sommes devenus sourds à la voix de Dieu. Parce que le péché dans notre vie, non confessé, hein, je parle de péché non confessé, va barrer la porte, va refermer la porte. On n'entendra plus. C'est comme si Dieu parlait dans une pièce derrière une porte blindée. On ne va plus l'entendre. On ne peut plus l'entendre de la même manière. Et voilà. Donc, il faut revenir à Dieu et demander pardon pour que ce canal auditif spirituel puisse être rétabli. Il nous faut chercher un endroit tranquille. Et c'est important de trouver des endroits tranquilles. Ah, il y a des endroits où on est l'un sur l'autre. Dans certaines maisons, avec beaucoup d'enfants, etc., tu me parlais déjà d'une famille d'Indonésie ou quelque chose comme ça. Ouais. En Birmanie. En Birmanie, où ils sont 10 dans une maison surpilotée dans l'eau, c'est ça? Au-dessus de l'eau, bien sûr. Et ils sont 10 et il y a une pièce plus petite que ceci, bien sûr. Peut-être le tiers de la pièce ici ou la moitié grand maximum et avec tout ce qu'ils ont en principe pour 10 personnes et donc c'est difficile de trouver un endroit seul avec Dieu, hein, c'est pas toujours facile, hein. Au temps de Jésus d'ailleurs, vous savez que les maisons palestiniennes c'était une pièce, hein, une porte, une fenêtre, un escalier extérieur qui monte sur une plateforme, donc le toit plat, il fait très bon, il n'y a pas beaucoup de pluie, pas énorme, et donc voilà, c'est un lieu de vie pour le jour, et on déroulait les nattes pour dormir la nuit, voilà, c'est comme ça qu'il vivait, donc c'est pas toujours évident de réaliser cela. Il faut chercher un endroit tranquille. Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus disait « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Hein? » Et on réalise bien la maison palestinienne, quand il dit ça, comment faire? C'est pas comme nous qui avons 3-4 chambres, quelquefois, une chambre, peu importe. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parce que c'est important d'être dans l'intimité avec le Père. On ne peut pas être intime avec Dieu et avec tout le monde en même temps. C'est pas possible. À moins d'être avec des chrétiens qui poursuivent le même but Ça, c'est possible. Jésus et ses disciples cherchaient Dieu, le Père. Hein, et priaient le Père. Pourquoi sortir dans sa chambre? Mais pour s'éloigner de toute distraction, évidemment. Pour entendre Dieu, nous devons rechercher des endroits tranquilles. Je me souviens d'une époque où j'allais à l'extérieur pour essayer de trouver dans la campagne des endroits pour être seul avec Dieu, très tôt, 5h du matin, ou même le soir, la nuit, bon, peu importe. Bon, quand on est marié, c'est un peu différent, hein, on va pas s'absenter, aller n'importe où. Jésus recherchait des endroits pour y prier la nuit, à l'aube ou tard le soir. Il s'écartait de la foule pour entrer dans l'intimité avec son Père. C'est très, très important. Jésus avait l'habitude de se retirer de l'agitation pour entrer, l'agitation du monde, pour entrer dans l'intimité de son Père. Luc 5, verset 16, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il s'éloignait de la ville, il s'éloignait des gens pour aller dans un lieu vraiment désertique où personne n'allait le suivre. Hein, parce que pendant le jour, quelquefois, il n'y avait pas d'endroit. Tout le monde voulait toucher Jésus, être touché par lui, etc., parce qu'il faisait des miracles. Et c'était difficile, des fois, de trouver un endroit où il pouvait être un peu seul, avec ses disciples ou lui seul. Jésus montrait comment prier à l'écart avec ses disciples. Luc 9, 18, un jour que Jésus prie à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Il avait avec lui ses disciples pour prier à l'écart à certains moments. Pour Jésus, prier le Père, c'est être un avec lui, ce qui produit la gloire. Parce que quand on est un avec Dieu, vraiment un, il n'y a rien qui fait obstacle. Et parce que Dieu disait de lui, voici en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma joie, parce qu'il n'y avait rien qui lui déplaisait en Jésus. Alors quand il n'y a rien qui déplaît à Dieu dans une vie, la gloire peut venir. La gloire qui était sur le tabernacle, c'est la gloire qui peut venir sur vous. S'il n'y a rien qui obstrue le passage, la gloire peut éclater. Et on le voit dans Luc 9, 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Vous allez dire, oui, ça c'est la transfiguration. Oui, c'est la transfiguration, mais c'est l'image de la gloire de Dieu. Ouais, Dieu révèle sa gloire sur son Fils, puisqu'il est nature divine. Et Dieu manifeste sa gloire et sa faveur sur le Fils. Et par l'Esprit, nous sommes transformés, nous aussi, de gloire en gloire par l'Esprit. Nous avons aussi un poids de gloire sur nos vies. Et nous pouvons aussi être transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Si nous obéissons, si nous laissons faire, si nous vivons dans l'intimité avec le Père. Jésus nous montre aussi qu'il est essentiel de prier, quel que soit notre état intérieur, quelles que soient nos émotions, quels que soient nos sentiments, quoi que ce soit que nous vivions comme circonstance. Parce qu'il y en a qui disent, oh non, moi je souffre de trop, il faut me laisser tranquille avec tout ça. J'ai suffisamment eu de peine. Hein, me laisser un peu tranquille. Regardez, dans Luc 22, verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, il priait plus instamment. Ça veut dire qu'il était dans l'angoisse et il priait. Il n'arrêtait pas de prier parce qu'il était angoissé. Il disait, non, ça me suffit comme ça. Hein. Je vais essayer de passer ce moment-là. Non. Il priait. Donc, quoi que ce soit des moments de gloire, des moments fantastiques, on est sur le sommet de la montagne, ou alors on se trouve au plus profond de la vallée, eh bien, c'est le moment de prier. Sur la montagne ou dans la vallée. Dans les moments forts et dans les moments faibles. Peu importe. Avons-nous un endroit tranquille pour écouter Dieu? Est-ce que nous avons un endroit de prière que nous affectionnons? Et on peut en chercher d'autres. Je crois que c'est tellement important d'avoir des endroits que nous connaissons où nous pouvons être tranquilles. Et cet endroit-là, nous allons le dédier à Dieu. Donc c'est vraiment important. Dieu donne la force et une nouvelle direction quand nous écoutons sa voix. Dieu donne un renouvellement de force et une direction, peut-être la même, mais peut-être que Dieu va nous fortifier, nous donner cette assurance que nous sommes bien dans le bon chemin. Parce qu'il y a des gens, et ça nous arrive, de souffrir, on parlait de souffrance, d'avoir dur, et de se dire, est-ce que je suis encore dans le bon chemin? Est-ce que j'ai fait fausse route? J'ai l'impression que je me suis égaré. C'est pas possible, ce qui m'arrive là est trop bizarre. Est trop... C'est pas possible. Et des fois, Dieu dira, oui, c'est le chemin qui continue. Hein? Il faut savoir se poser des questions. Hein? Il vaut mieux se poser des questions. Dans le chemin qu'on est en train de faire, parce que des fois, c'est vrai, nous nous égarons. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Nous ramener sur le bon chemin. C'est le bon berger qui nous va, si nous avons des oreilles pour écouter la voix du bon berger, il va nous ramener sur le bon chemin afin que, eh bien, oui, parce que ça peut être la chute si on n'écoute pas. Si on n'écoute pas, on va aller tomber dans un précipice. Hein. Le mouton, quelquefois, passe à côté d'un précipice, mais le bon berger, il est là pour les ramener vers lui. Donc, écouter sa voix, c'est tellement important. Donc, Dieu donne la force, des forces renouvelées. Nous allons le voir avec le prophète Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le prophète Élie avait exprimé une très grande victoire personnelle. Élie, au Mont Carmel, il avait lancer un défi aux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient tous venus au Mont Carmel. Et vous savez, la victoire d'Élie, on est allé à l'endroit où ça s'est passé, au Mont Carmel. Et c'était étonnant de se trouver dans cet endroit-là où Élie a placé les 12 pierres là sur lesquelles il va en faire un sacrifice. Les prophètes de Baal aussi l'ont fait. Hein, ils ont invoqué le feu qui n'est jamais arrivé. Ils se sont saignés, etc. pour faire venir le feu, mais rien n'y a fait. Et Élie a offert le sacrifice, hein, après s'être moqué d'eux. Et le feu est venu et a consumé l'Holocauste. Les pierres, oui, on avait aspergé d'eau aussi. Et le bois a été... Et tout a été consumé. Et Dieu a montré que l'Éternel est Dieu. Et même les prophètes ont dit, l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils pensaient que c'était Baal, vraiment profondément, ils pensaient. Mais là, ils disaient, non, c'est l'Éternel. Mais on va s'emparer des faux prophètes, on va les tuer. Élie va les tuer. Et finalement, Jézabel, la femme d'Akab, va tellement être furieuse qu'elle va lui faire dire par un messager que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais de toi ce que tu as fait au prophète de Baal. Et là, il va avoir peur. Et il va devenir... on appelle ça dépressif. Dépressif. Et il cherche la mort, il cherche à mourir. Je suis pas meilleur que mes pères, reprends-moi. C'est fait, j'ai fini ma vie. Reprends-moi, j'en ai marre. J'ai assez combattu comme ça, c'est bon. Et mais Dieu ne l'entendait pas de cette oreille et l'a conduit dans le désert. Enfin, c'est déjà Élie qui est parti vers le désert. Et Dieu va envoyer des anges pour lui donner à manger, etc., pour lui dire après de partir au mont Horeb. Et il a marché pratiquement jour et nuit avec la nourriture que Dieu lui avait donnée. Devait être plus fort que tous les produits dopants du Tour de France. Dans une blague. 40 jours et 40 nuits, il va marcher sans arrêter pour arriver à Horeb. Et Dieu va lui parler à cet endroit-là. Et on le voit dans 1 Rois, chapitre 19, versets 11 et 12. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Et Dieu va parler à Élie, un homme qui est complètement écrasé, un homme qui est complètement, qui était abattu. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et que signifie le fait qu'il s'enveloppe avec son manteau, il enveloppe son visage de son manteau, mais c'est une marque de respect, une marque d'adoration, une marque de soumission, une marque d'humiliation, d'ouverture au niveau spirituel à Dieu. Et Élie était prêt à écouter le Seigneur. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» pour devoir répondre. En fait, Dieu s'y prend de telle manière qu'il puisse exprimer ce qu'il vit à l'intérieur. Et Dieu va faire sortir, pas les vers du nez, mais il fait sortir un petit peu les motivations profondes, ce qui lui fait du tort. Je suis resté moi seul, hein, j'ai combattu pour toi, mais je suis tout seul. Hein, et Dieu lui dira, il y en a 7 000 qui n'ont pas fléchi le genou de Bambal. T'es pas le seul. Et t'as encore du boulot. Tu crois avoir terminé, mais non. Dieu a préparé la rencontre. Dieu veut que nous entendions sa voix. Il prépare le moyen de sortir de nos épreuves. Il y a un moyen. Nous sommes des fois dans le tunnel, mais il faut savoir et se rappeler que même si tu es toujours dans le tunnel, il y a un bout où la lumière réapparaît. Et on a l'impression, quelquefois, au début du tunnel, quand on rentre dedans, c'est tout obscur. Là, je suis vraiment foutu. Là, je ne vois pas comment, cette fois-ci, je pourrais m'en sortir. Il faut savoir que de l'autre côté, il y a un bout. Il y a un autre bout. En tunnel, il y a toujours une entrée, une sortie. Ça, c'est important de se rappeler qu'il y a une sortie. Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Il y aura une sortie. Et nous devons nous souvenir que Dieu était dans un murmure doux et léger, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, ni dans un grand vent. Il était dans le murmure doux et léger. Et quand vous l'entendrez, nous aurons envie de nous couvrir le visage. Alors, quels sont les résultats pour Élie d'avoir entendu ce murmure doux et léger? Quels sont les résultats? Eh bien, il va recevoir de nouvelles forces pour accomplir son ministère. Il va aller oindre un nouveau prophète, Élisée, à sa place. Jéhu comme roi en Israël et un nouveau roi encore ailleurs. Donc, on voit qu'il y a encore du boulot pour notre ami Élie. C'est pas fini. Il était un homme vaincu, prêt à abandonner, à tout quitter, à sombrer dans le désespoir. Voilà où il en était. Mais Dieu lui donne la capacité de continuer. Non, ce n'est pas fini. Il y a encore un travail pour toi. Après avoir entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Élie? Il est devenu un vainqueur. Il a reçu une nouvelle direction. Il y a de nouvelles directives de la part de Dieu. Et elles sont venues comment, la nouvelle directive, ben, en écoutant la voix de Dieu. Il y a de nouvelles forces. Moi, je trouve que c'est fantastique. Écouter Dieu pour recevoir de nouvelles forces et une nouvelle direction. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'anti-vieillissement, ça. C'est l'anti-vieillissement. Je ne vieillis pas en écoutant la voix de Dieu. J'ai de nouvelles forces. Ah oui. Celui qui a confiance en Dieu renouvelle ses forces. Il renouvelle sa vision, c'est-à-dire le sens de la direction de sa vie. Il n'y a pas pire que les gens qui ne savent pas où ils vont, qui ont tout fini, il n'y a plus rien, Il y a des gens comme ça, à 62 ans, ils ont pris leur pension. C'est un fait qui m'a été relaté, le père d'un enseignant. Et puis, il n'y avait plus rien à faire. Un an après, il était mort. Plus rien à faire, pas d'objectif. Il n'avait rien préparé pour sa pension. Et c'était fini, il n'avait plus de sens. Le sens d'exister, qu'on n'a plus rien à faire sur la terre, on n'a plus de sens, on n'a plus un sens à donner à ce qu'on fait, et qu'on ne fait plus rien, on n'a plus à faire, ça c'est une catastrophe. Quand on est appelé par Dieu, il y a du boulot jusqu'au dernier jour de notre vie. Alors, j'ai connu un homme qui s'appelait Smith, qui était pasteur à Louvain-la-Neuve, qui s'occupait de Teen Challenge. À cette époque-là, il a eu le cancer à la tête, et donc il ne pouvait plus rien faire que d'être à l'hôpital, dans son lit. Eh bien, vous savez ce qu'il faisait? Ah, il ne savait plus faire grand-chose. Comment? Il priait pour la Belgique. Il priait pour le salut des Belges. C'est l'Américain. Il priait pour la Belgique. Les dernières forces, il les a utilisées tant qu'il a été conscient, en priant pour le salut des âmes. Jusqu'au dernier souffle, il y aura du travail pour nous. Jusqu'à ce moment-là, Élie ne connaissait pas la prochaine étape, mais Dieu lui a donné une nouvelle direction pour son ministère. Si nous ne connaissons pas la prochaine étape, c'est pas grave. Hein. Je me rappelle le frère Ed Lung, à Namur, moi je l'ai pas connu de temps son ministère, mais j'ai eu l'occasion quand même de le rencontrer avec un autre frère suédois, et il s'apprêtait à retourner en Afrique, mais il savait pas vraiment tout dans le plan de Dieu, il comprenait pas exactement tout, il savait qu'il allait retourner en Afrique, il demandait humblement, avec une expérience de plus de 50 ans de ministère, priez pour moi, veuillez prier pour moi s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Voilà, je trouvais ça tellement humble. Hein, avec son expérience, il aurait pu dire, oui, je sais comment ça va aller. Non. Et prier pour moi, voilà. Et il cherchait la direction précise pour son ministère. Ce sera pareil pour vous, pour moi et pour les autres. La force et une nouvelle direction viennent du fait d'écouter Dieu. En conclusion, le psaume 32 dit ceci, et c'est un passage particulier qui m'a tellement chamboulé depuis des années, surtout les premières années de ma vie chrétienne. « Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. » C'est beau, hein? On va le relire ce beau verset-là, verset 8. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. C'est nous qui devons avoir les yeux fixés sur lui. Et pourtant, Jésus, le Seigneur, il dit, je garde les yeux fixés sur toi. Extraordinaire. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors, il ne t'arrivera rien. Voilà. Hein, c'est toute la différence entre le cheval sauvage, qui n'a jamais été dompté, et ça, c'est la chair, indomptable, sans foi ni loi, etc. Tout ce que vous voulez. Hein. Les gens qui n'ont jamais été domptés par qui que ce soit, mais qui n'en font qu'à leur tête. Et puis, le cheval qui a été habitué à être entraîné, à être, à avoir cette discipline d'un maître qui lui indique quoi faire. Et nous devons être comme cela, accepter volontairement, parce que nous sommes l'esclave de personne. D'ailleurs, Dieu nous a libérés pour que nous soyons libres. Et c'est en tant que libres que nous pouvons accepter la seigneurie de Christ Le diable fait de nous ses esclaves. Nous devenons des gens un peu téléguidés par lui. Il fait un peu ce qu'il veut avec les âmes qu'il a conquis. Mais Jésus, lui, il est donc un gentleman qui ne s'impose pas et qui nous laisse libre de désobéir ou d'obéir. Et c'est volontairement que nous devons, en tant que disciples, dire « Seigneur, bride-moi. Bride-moi. Fais ce que tu veux avec moi. Amène-moi à un niveau de disciple. Donc, où je fais des progrès. Je fais des progrès. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors, il ne t'arrivera rien. Sois soumis au Seigneur. » Alors, je voudrais simplement vous lire une petite méditation à ce propos-là qui vaut la peine. Lorsque nous remettons notre vie à Dieu, il nous donne le plein potentiel de sa force, en brisant d'abord petit à petit les domaines dans lesquels notre volonté s'entête. Dès que ces domaines sont brisés, il libère en nous sa puissance et les choses commencent à s'améliorer. Bien des hommes et des femmes ont été détruits pour avoir eu puissance et talent sans force de caractère et objectifs précis. Vous en connaissez certainement quelques spécimens. Alors sachez-le, tant que votre talent n'est pas gouverné par votre personnalité conduite par l'Esprit de Christ, vous courez droit vers les ennuis. Un cheval peut avoir un pédigré de champion, mais tant qu'il n'a pas été dressé, sa force représente un danger pour lui et ceux qui l'entourent. Je crois que c'est important. Se laisser dresser par Dieu. On peut avoir le pédigré de champion, tout d'un champion, mais si on n'a pas été dressé par Dieu, on sera d'aucun intérêt, d'aucune utilité pour Dieu. Vous noterez deux choses importantes à propos d'un pur sang. Il entend de nombreuses voix pendant la course, mais il a appris à ne réagir qu'à une seule, celle de son jockey. Donc, il y a des tas de jockeys hein, avec leurs chevaux qui sont à gauche, à droite, devant, à arrière. Et comment le cheval d'un tel jockey ne va pas obéir aux injonctions des autres jockeys qui sont à côté, mais il entend la voix de son jockey. Et il obéit à son jockey, pas aux autres. Donc il fait la distinction entre son jockey et les autres. Voilà le plan que Dieu a pour vous. Vous entendrez un tas d'opinions, mais pour gagner la course de votre vie, vous devez être guidé par Dieu seul. Et cela demande de l'humilité. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Psaume 25, verset 9. Il doit être aussi, sa deuxième chose, il doit être scellé et monté pour que s'accomplisse sa force et que son plein potentiel se libère. Alors, Dieu vous a-t-il dressé de cette façon? Si nous voulons que notre plein potentiel, notre ministère soit effectif dans le corps de Christ, nous puissions arriver au plein potentiel, à la pleine maturité, ben, il faut accepter d'être cédé, monté, d'une manière spirituelle. Alors, Dieu vous a-t-il dressé de cette façon? Vous a-t-il harnaché en disant, tu ne peux plus vivre ainsi, ou faire ce que tu veux, parce que j'ai des projets pour toi. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. C'est important qu'on puisse vraiment réaliser qu'il y a des projets qui sont là pour nos vies, mais que ces projets-là, ils ne pourront devenir effectifs que si nous entendons la voix de Dieu. Je pense que c'est tellement important. Dieu a le désir de nous parler. Cherchons des endroits où Dieu va nous parler, des endroits de rendez-vous. Ayons des endroits pour rencontrer le Seigneur. Si nous écoutons la voix de Dieu, il nous donnera de nouvelles forces et une nouvelle direction. En tout cas, nous rassurera par rapport à la direction que nous avons poursuivie jusqu'alors, ou une nouvelle, éventuellement. Que le Seigneur puisse nous bénir ce matin. Nous allons prier. Seigneur Père, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu as placé en nous des dons, des talents, des capacités. Mais nous voulons, Seigneur, réaliser que, comme le pur sang, qui est sauvage, n'est pas de grande utilité, ce qui n'en fait qu'à sa tête, nous devons accepter d'être transformés dans notre vie. C'est en écoutant ta voix, en étant attentif à ta parole. Voulons être avec toi, que cette parole puisse nous aider. Venez à moi, c'est ce que tu dis, hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et on est avec toi, tu es à côté de nous. Le joug est à la fois posé sur toi et sur nous, la plus grosse charge sur toi, la plus petite sur nous. Et voulons suivre ta direction, Seigneur, tes instructions. Parle-nous, Seigneur. Voulons être attachés à toi, toi qui es avec nous. Tu as dit, je suis avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, c'est toi qui diriges l'attelage. Que nous soyons attelés avec toi, Seigneur. Tu as tes yeux sur nous. Nous voulons avoir nos yeux sur toi. C'est toi qui nous donnes une direction. Des forces nouvelles. Parce que ce n'est pas écrasant. Ta volonté n'est pas que nous soyons écrasés. Mais au contraire, ta volonté, c'est que nous soyons relevés. Nous voulons réaliser qu'Élie a été relevé. Il était dépressif. Il avait perdu l'espérance. Il avait perdu de sa pugnacité. Mais toi, tu lui as rendu. Tu l'as rendu fort. Seigneur, merci Jésus. Parce que nous voulons nous rendre compte que tu es vivant, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix. Oui, Seigneur, nous voulons trouver des endroits et prendre des bons moments, réaliser le moment où nous devons et l'endroit où nous devons prier, te rechercher et être attentifs à tout moment. Oui, nous voulons avoir des moments d'intimité avec toi, Seigneur, pour être fort. Pour savoir comment réagir. Tu vois que l'ennemi veut souvent nous faire trébucher sur une peau de banane, hein, et si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'avons pas entendu ta voix, si nous n'avons pas exercé notre oreille à écouter ce que tu as à nous dire, toi tu veux nous montrer, tu veux nous prévenir. Un peu comme le coyote qui avertit des flashs, mais tu es celui qui nous avertit des dangers, des problèmes. Tu donnes tes conseils à tes enfants. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es notre Dieu tout-puissant. Merci, Jésus.